Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de Marie-Christine Loubry, du docteur Dominique Desmichel. Est-ce le compte des six signes, Marie-Christine, que vous avez choisi d'évoquer pour nous? Ce compte, vous nous l'avez raconté dans notre précédente émission et j'invite nos auditeurs à le réécouter sur notre site radiograndciel.fr. Que raconte cette histoire? Un roi épouse par obligation la fille d'une sorcière. Celle-ci transforme les six garçons qu'il avait lors d'un premier mariage en cygnes pour s'en débarrasser, mais leur sœur en réchappe et décide de partir à l'aventure pour les sauver. C'est elle évidemment l'héroïne de cette histoire. Elle apprend que pour rompre le sortilège, elle doit coudre six nouvelles chemises et surtout ne pas parler et ne pas rire pendant 7 ans, ce qui paraît impossible à tenir. Un autre roi s'éprend d'elle, l'épouse contre la volonté de sa mère, et pour s'en débarrasser, celle-ci accuse sa belle-fille de manger ses enfants. Justice sera faite, heureusement, comme dans tous les contes. Marie-Christine, on s'engage vers une histoire de belle-mère encore.
Oui, de belle-mère ou de féminin, plutôt. De personnage féminin, effectivement, assez enfin, fort, assez puissant, face à d'autres qui paraissent faibles, mais qui vont se révéler tout aussi puissants.
Oui, deux forces qui vont s'opposer. Alors nous avons laissé nos personnages tout au début de cette histoire. Le roi a caché ses 7 enfants dans un château magique au milieu d'une forêt. Pour y accéder, il y a cette pelote de laine que lui a confiée une fée. On voit que le roi déjà n'a pas tellement confiance en son épouse, donc c'est vraiment un mariage qui part très mal, hein, docteur Dominique Desmichel.
Oui, il n'a pas confiance en son épouse ou il n'a pas confiance en son féminin, dans un féminin horizontal. Parce que le roi, quand même, il a une fonction maternelle puisqu'il s'inquiète pour ses 7 enfants. Il va voir une figure féminine vivante, il va voir une fée, hein, c'est ça, qui lui dit mettez vos enfants à l'abri. Hein. Et donc il les met à l'abri et la fée lui dit non seulement vous allez les mettre à l'abri, et je vais vous dire où, voilà, dans cette cabane au fond de la forêt, comme ça, mais en même temps je vais vous donner la possibilité de garder du lien. Hein. Et c'est toute cette symbolique de
la pelote.
De la pelote, voilà, qui est comme une sorte de cordon ombilical, hein, au fond. Hein. C'est-à-dire, lui, dans son lien, même s'il est épisodique, avec ses enfants, il y a quelque chose qui est conservé. Enfin, par ce lien, par cette pelote, par ce cordon ombilical, il y a une fonction maternelle qui existe chez le roi. Voilà. Et on va la retrouver dans la fonction maternelle du deuxième roi après.
Donc il y a une pelote de laine, la méchante reine va tisser des chemises, c'est un peu aussi un fil rouge, le tissage à travers toute cette histoire. Vous aimez bien les histoires de tissage, Marie-Christine ?
Mais on les retrouve, toujours, il y a des fils, il y a des broderies, il y a des... oui, c'est, ça forme des liens, c'est des grandes toiles... Et c'est vrai que ça fait des motifs très intéressants qu'on retrouve régulièrement, oui.
Et on pourrait dire que c'est aussi l'histoire de tisser sa vie. Hein. Mmh. On repense quand même à la plus grande tisseuse de la mythologie avec Pénélope, bien évidemment, qui fait et défait parce qu'elle attend. Elle attend son Ulysse. Hein.
Alors la reine va tisser donc cette chemise magique. Chemise magique qu'elle va enfiler aux six frères. Alors ça se passe plutôt bien pour la fille qui, elle, réussit à s'en sortir. On voit déjà, docteur Dominique Desmichel, un décalage entre la fille et les garçons. La fille est en haut de la tour, si je me souviens bien, et les garçons jouent dans la cour.
Oui, je trouve que c'est vraiment étrange de se dire que cette reine, qui est a priori donc une figure de sorcière, Je vous rappelle qu'on peut vraiment penser que cette figure de sorcière, ça peut représenter la partie féminine du roi. Hein. Donc il ne s'agit pas de dire que toutes les femmes sont des sorcières et que tous les hommes sont des gens qui se laissent mener par les hommes sont des gens qui se laissent mener par le bout du nez. Hein. Ça peut vraiment représenter la partie féminine du roi. Mais si on simplifie, je me posais la question et j'ai pas vraiment de réponse. Je disais pourquoi au fond cette femme-là emprisonne en quelque sorte seulement les garçons, dont il faut rappeler qu'ils sont en train de jouer devant la maison. Donc ils sont dans le 4, ils sont dans l'immanence, ils sont dans la réalité. Ils sont collés au sol, on pourrait dire, et elle les invite, enfin elle les transforme en signes, c'est-à-dire elle leur impose une sorte de régression. Donc on voit là encore une sorte de confirmation d'un masculin qui est malade. On a vu le roi qui courait désespérément après la figure royale de la forêt, à savoir le cerf. Et là, on voit de nouveau les garçons qui sont qui subissent un processus morbide, terrifiant de régression, puisque de humain, ils repassent au stade animal.
Alors, on arrive au cœur de l'histoire, c'est-à-dire cette, la métamorphose, des garçons métamorphosés en cygne. Et d'ailleurs, ces métamorphoses, il y en aura tout au long de, un petit peu tout au long du conte. Hein. On sent que c'est aussi une histoire de peau, de métamorphose. Et vous, Marie-Christine, vous nous avez dit dans l'émission précédente que c'est ça qui vous avait plu.
Oui, c'est ces passages, l'animalité, l'humanité, c'est l'évolution. Alors, l'évolution de soi, de l'être humain, et dans les contes, effectivement, c'est ce qui je trouve assez fascinant, quoi. Ça parle de différents états, des voyages à l'intérieur de soi-même, à l'extérieur.
Et là, elle les transforme en signes. Alors, c'était un sortilège, on aurait pu dire, elle les transforme en crapaud, en corbeau, oui. Mais un signe qui est plutôt un oiseau magnifique, signe de pureté, un grand oiseau, qui a un côté un peu altier, encore royal presque. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que la métamorphose, ça dépend de qui on est au départ, peut-être ? On ne peut pas métamorphoser n'importe qui en n'importe quoi ?
Sans doute, et je pense que dans toute métamorphose, c'est pas, même si c'est un animal, c'est vrai que le cygne, ça représente aussi, c'est un animal qui vole, qui va dans le ciel. Oui, c'est pas un crapaud. Et donc, même si c'est un animal, il a quelque chose de beau et de précieux. Et régression, oui, mais je pense que les garçons y ont certainement peut-être appris ou ressenti des choses, que c'est une traversée qui peut pas être que négative.
Oui, parce que ça fait rêver d'être un cygne, de pouvoir voler dans le ciel et peut-être découvrir le monde, le vaste monde.
Oui, peut-être qu'ils vont découvrir des choses justement cachées. Enfin, on ne sait pas, ça, on n'en parle pas. Mais moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, tiens, ils sont devenus cygnes, ils ont dû, je sais pas, sentir des choses, visiter des pays et c'est, tout n'était pas perdu. Bon, bien sûr, dans les contes, ça se finit bien.
Si la régression reste au stade de régression, elle est mortifère. Mais la régression en tant que processus, c'est toujours un processus de vie, comme le deuil. Le deuil, du côté de l'événement, c'est associé à la mort, mais du côté du processus, c'est associé à la vie. Donc si on pense que vraiment les figures masculines ici sont des figures qui sont que dans l'immanence, et qu'il n'y a pas de dimension de transcendance, que ça serait vraiment cette transcendance qui manque, alors on peut vraiment penser que le passage régressif par l'état de l'oiseau, qui quand même témoigne d'une transcendance, parce qu'il vole vers le ciel, l'oiseau, nous, on est tous incapables de faire ça. On est cantonnés, au nom de ce principe de réalité, à rester sur le sol. Hein. Donc on peut bien penser que le processus de réparation de ces six garçons, donc du roi, puisque c'est toujours la même chose, de ce masculin blessé qui n'est pas en relation avec un féminin vivant, ça passe par cette régression dans un animal qui vient témoigner de la possibilité de décoller de cette immanence, d'accéder à une transcendance, dans le cadre, il me semble, d'une réconciliation entre le masculin et le féminin.
Voilà nos 6 garçons qui sont transformés en cygnes, donc partis vers d'autres cieux. Et là, on retrouve le roi dans sa naïveté et un petit peu son impuissance, parce que lui ne peut pas grand-chose. Et c'est la sœur qui reste, qui décide de prendre les choses en main. Et là, on a vraiment une héroïne volontaire, pour le coup.
Parce que le processus de vie ici, il va passer par la fonction sentiment, hein. On a vu que pour le roi, quand il rentre dans sa forêt intérieure, quand il rentre dans son inconscient, qu'est-ce qu'il trouve ? Une sorcière et une fille de sorcière. Il n'est pas animé, ce roi. Hein. Il est quasi mort, ce roi, on pourrait dire. Il croit qu'il est un homme en partant à la chasse, mais il n'est pas relié à son féminin. Donc là, la fille qui est dans sa tour ou dans en haut de la maison, elle vient témoigner de la possibilité de remettre une fonction sentiment, de remettre du lien, et pour ça, elle va sacrum facere, c'est-à-dire elle va faire du sacré par cette double dimension, d'une part, d'une sorte de position passive-active, passive parce qu'elle se tait, elle n'a pas le droit de parler, mais c'est un choix, donc c'est une passivité active. Cette passivité active, c'est la position du féminin, c'est-à-dire celui qui accueille, celui qui reçoit. C'est la même chose dans la sexualité. Et en même temps, elle a une dimension créatrice, puisque par rapport à la tunique qui enferme, hein, on pourrait rappeler que c'est l'histoire de la fin d'Héraclès. Hein. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais Héraclès, il termine enfermé dans une tunique que lui a donnée Dagerine, empoisonnée avec le sang de Lerne, de l'hydre de Lerne. Enfin, bon, on y reviendra peut-être après si on a le temps, mais c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire, les garçons, ils sont enfermés dans quelque chose qui les a amenés à une régression au stade de cygne. Cette régression, elle est importante pour pouvoir enfin voler de ses propres ailes. Et elle va construire une autre tunique, c'est-à-dire une autre identité, grâce à son sacrifice, grâce à son silence, paradoxalement aussi, ce qui est tout à fait étonnant, puisqu'on voit bien que le silence du roi au départ, il est un silence mortifère, hein, puisqu'il ne parle pas de sa première histoire. Elle est aussi là-dedans, mais elle crée autre chose.
Alors Marie-Christine, ce petit bout de fille qui retrousse ses manches et puis qui part toute seule dans la forêt pour sauver ses frères, ça fait écho en vous ?
Ben c'est... Oui, je trouve que c'est une attitude un peu à la fois courageuse et puis un petit peu inconsciente, se dire « ben oui, moi la montagne, je vais la soulever, il n'y a pas de problème. Il faut avoir beaucoup de... » ou de foi, je sais pas, ou est-ce que c'est... Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, bien sûr. Et le fait qu'elle accepte de rester ce silence, justement, je trouve ça vraiment intéressant. Ne pas parler, ne pas rire, c'est être en retrait, et c'est dans ce silence qu'elle va pouvoir travailler, créer, fabriquer ses chemises qui vont sauver ses frères. Et oui, ce silence, c'est quelque chose quand même de très beau, plein, en fait.
Ça fait penser à une autre métamorphose, une nouvelle fois, la chrysalide qui va se recroqueviller pour se transformer par la suite. Alors, avant d'en arriver à la transformation de la jeune fille, il y a ce passage quand même très étrange de la jeune fille qui se retrouve dans la hutte des frères. Elle voit 6 lits et elle se couche sous le lit. C'est quand même assez étonnant, ça.
Oui, je pense qu'elle veut passer inaperçue. Après, je ne sais pas trop. Effectivement, elle voit 6 lits, elle pourrait se reposer confortablement, mais elle décide de se cacher, de pas se montrer.
Et de dormir à même le sol.
Oui.
Je crois qu'il faut bien se rappeler que jusqu'à l'arrivée du deuxième roi, tout se passe dans la forêt. C'est-à-dire que, sur le plan psychique, on est dans le travail de l'inconscient, hein, c'est-à-dire à l'intérieur de ce personnage unique dans lequel il y a le roi, les différents personnages féminins, il y a un processus qui est à l'œuvre. Et donc, dans son désir et sa volonté, cette jeune fille, c'est-à-dire, je dirais, cette anima naissante, cette figure féminine qui est en train de grandir, et on va voir qu'elle va grandir, devenir mère, mais sans vraiment complètement grandir. eh bien, il y a un processus qui est à l'œuvre. Donc je crois que si elle s'était couchée sur les lits des frères, ça aurait signifié qu'elle aurait pris la place des frères. Et c'est pas possible qu'elle prenne la place des frères. Si elle avait pris la place des frères, elle se serait inscrite dans la lignée des sorcières. C'est-à-dire, elle serait devenue toute puissante. Et étant allongée sur le lit des frères, les frères en arrivant au bord de la fenêtre, j'imagine, ils n'auraient eu qu'une seule issue, c'est de repartir, et donc de rester coincée dans l'inconscient. Donc elle est dessous, c'est-à-dire elle leur laisse leur place, et je vous rappelle que, je crois que c'est le premier moment important où il y a une parole, ils se parlent et ils s'embrassent. C'est-à-dire il y a à la fois du langage et de l'émotion, parce qu'elle les embrasse, voilà, je ne sais plus exactement.
Mais... Oui, ils se retrouvent, donc il y a voilà. Une fusion.
Voilà, ouais. Voilà. Et à ce moment-là, il y a un des frères, je crois, qui prend le soin de préciser à sa sœur, nous ne sommes pas que des signes. Pendant un quart d'heure de vie, c'est-à-dire pendant, il y a une petite fraction de nous-mêmes qui est restée humaine.
Qui est restée où on retrouve notre forme humaine.
Voilà. Ouais. Ouais, ouais. On n'a pas complètement régressé.
Je rappelle l'histoire. Donc les frères vont signifier à leur sœur que pour les sauver, il faudrait qu'elle puisse rester 7 ans sans parler et coudre des chemises impossibles avec des petits bouts de fleurs d'étoiles qui plus est dans la forêt. Alors les frères lui disent bien que c'est malheureusement impossible, mais une nouvelle fois, ce petit bout de fille va retrouver ses manches et relever le défi. Et nous voilà donc dans cette période de silence où elle se retrouve en haut d'un arbre.
Moi j'aurais envie de dire, on a bien envie de se dire, par exemple dans la mythologie grecque, on s'aperçoit que lorsque les héros grecs ont fait une faute, ils vont périr par là où ils ont fait leur faute. Par exemple, pour une histoire que tout le monde connaît, Œdipe, il n'a pas été foutu de reconnaître sa mère et de reconnaître son père quand il va le tuer, et sa mère quand il va l'épouser. Moi, je crois qu'il n'y a aucune faute de la part d'Œdipe. Hein. C'est l'histoire de Laïos, son père. C'est ça le problème, et puis avec Chrysippe. Mais c'est une autre histoire. Et donc, comme il a fauté parce qu'il était aveugle, il va se crever les yeux. Donc, il me semble que là, c'est important de se dire que les garçons, en disant « c'est impossible », ils sont dans la même lignée que le père. C'est-à-dire, ils disent « c'est foutu ». Le père, il court après son cerf royal, mais de toute façon, c'est foutu, il ne va pas y arriver. Il a des gosses, il les fout en pension, et puis il épouse la première venue, où il y a une femme qui lui a dit « tiens, tu vas épouser celle-là », bah, il le fait. Enfin, vraiment, il n'a pas un poil de couille à lui. Et là, les frères, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est vraiment ici le principe féminin du côté des sentiments et de la relation qui va permettre une issue différente.
Alors ce silence, est-ce qu'il ne pouvait pas penser aussi à une, là je parle au docteur, à ces périodes qu'on appelle symptômes post-traumatiques, on a subi quelque chose de très très fort et puis du coup on est dans l'incapacité de parler, de sourire en tout cas, parce que c'est la parole et également le sourire, c'est-à-dire que tu es condamné aussi à être triste quelque part.
En tout cas, ce qui me semble, c'est que s'il y a 7 ans de silence alors qu'il y a 7 enfants, ça veut dire qu'il y a eu cette faute, mais dans le sens étymologique du mot faute, c'est-à-dire faillita en latin, c'est-à-dire erreur. Ces 7 ans, ils viennent en quelque sorte contrebalancer les 7 garçons et filles, hein, enfin les 6 garçons et la fille. Il y a eu quelque chose qui a failli là.
Bah, qui est brisé, quoi. On a le chiffre 7 parfait qui est brisé en 6 plus 1, qui n'a plus de signification en tout cas.
Donc il faut qu'elle régresse, pas au stade animal, mais qu'elle régresse en se plaçant juste dans son intériorité. Et on voit bien que la seule chose qui va la sortir de son intériorité, c'est l'apparition d'un lien avec le deuxième roi.
Marie-Christine, le roi arrive. Nous avons notre jeune fille qui est perchée dans son arbre. Là, il y a une scène de striptease qui est tout à fait étonnante.
Oui, oui. Oui, oui, elle est là dans l'arbre et c'est vrai que le striptease pourrait durer, quoi. Et c'est drôle, quoi. Parce que, et là, justement, on pourrait rire, mais. Et on imagine ce cavalier, ce chasseur là, qui voit une fille dans l'arbre et puis qui commence à se déshabiller. C'est vrai que c'est surprenant. Oui, oui.
On revient à cette histoire de vêtements, de peau. En tout cas, elle se débarrasse de quelque chose, de ses anciennes peaux.
Oui, elle. Est-ce qu'elle s'offre d'une certaine façon?
Elle peut s'offrir aussi, oui. Ouais. Mmh. Ne pouvant parler, elle s'offre d'une autre manière. Mmh.
En tout cas, il me semble que, du coup, on l'imagine, alors chacun avec ses fantasmes personnels, bien évidemment, on l'imagine qu'à la fin, elle offre en tout cas sa nudité, hein, évidemment dans une nudité symbolique, parce qu'on voit bien qu'elle n'est pas du tout dans un processus de séduction ici, hein, par rapport au roi. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, je trouve tout à fait à juste titre, elle lâche quelque chose de ses vêtements qui probablement cache quelque chose de sa véritable identité, et dans cette nudité symbolique qu'elle propose au deuxième roi, quelque chose jaillit dans le cœur du roi.
Comme si elle allait au bout de son cheminement après le silence, après le ne plus sourire, également se dépouiller de tout ce qu'on a quasiment, quoi.
Pas tout à fait au bout, parce qu'elle n'est pas au bout.
L'histoire continue.
Elle n'est pas au bout de sa peine. Hein, elle est à mi-parcours, on pourrait dire. Hein, à mi-parcours, enfin, je ne sais pas comment on compte, mais peu importe. Elle fait la rencontre à mi-parcours symbolique, d'abord dans cet inconscient, et. Il est vraisemblable que le roi peut être fasciné par cette jeune fille dans l'arbre, mais que le charme, il opère qu'à partir du moment où il y a la nudité, puisque dans cette nudité, elle lui impose en quelque sorte d'être actif. C'est pas elle qui descend, c'est lui qui monte. Donc on sent déjà qu'il y a un petit bout de masculin qui se restaure ici. Puisqu'il pourrait l'appeler, je ne sais pas trop quoi, ou lui dire de descendre. Non, c'est lui qui monte. Voilà un roi qui ne court pas de manière imaginaire ou fantasmatique après un cerf royal. Voilà un roi qui décolle aussi de l'immanence qu'il pesait, qui monte à l'arbre, c'est-à-dire qui est actif et qui va à la rencontre d'un féminin, qui n'est pas le fils, la fille de la sorcière qu'on a vue dans la forêt, mais qui est une figure féminine vivante, en tout cas en processus de restauration.
Oui, c'est lui qui prend la décision de l'emmener dans son château et qui ensuite, face à sa propre mère, va imposer ses choix.
Voilà, va tenir bon.
Va tenir bon.
Ouais. Alors,
a un peu plus de couilles, celui-là.
C'est un roi, ce n'est pas un prince charmant, comme on pourrait voir dans d'autres histoires. C'est-à-dire que le conte ne s'arrête pas là. Et c'est-à-dire que le roi ne résout pas du tout l'histoire. Et encore une fois, la tâche n'est pas finie, comme on l'a dit, pour la jeune fille. Et qui va tenir bon. Qui va tenir bon et ne pas parler. Les princes charmants, Marie-Christine, ça vous évoque quoi ?
Oui, bah c'est pareil, tout va bien après, ça, en fait, on ne sait pas.
On ne sait jamais.
Mais c'est une étape, donc quand ce sont des histoires, enfin oui, ou l'un ou l'autre d'ailleurs, où les héros sont des femmes ou bien si ce sont des hommes, effectivement, il y a la rencontre avec l'opposé et le mariage, mais là, c'est pareil, c'est symbolique. C'est-à-dire que le héros a, ou l'héroïne a accompli sa tâche et du coup est en paix avec lui-même en quelque sorte. Et le masculin, féminin se retrouve rééquilibré. Bon alors après bien sûr on peut faire un banquet après le mariage, hein, avec le mariage, ça n'empêche pas. Mais c'est surtout symboliquement que les princes épousent des jeunes filles. Et des jeunes filles souvent d'origine modeste. Et puis les princesses épousent des garçons d'origine modeste. Donc on rééquilibre tout ça.
Alors nous sommes dans un conte un petit peu en miroir, parce que là, l'histoire va se répéter, en tout cas l'histoire de la belle-mère. Docteur Dominique de Michel, on s'en sort pas des belles-mères, hein.
Il y a toujours lieu de penser que le conte, il est fondamentalement pédagogique, hein. C'est-à-dire, il vient dire à l'enfant, puis ensuite aux adultes, que les figures parentales qui ont été celles qu'ils ont intériorisées quand ils étaient tout petits sont plus complexes que la réalité. C'est-à-dire, en gros, le conte dit à l'enfant, tu pensais que ta mère, c'était la plus gentille des fées, mais il y a aussi une marâtre chez ta mère. Tu pensais que c'était la plus gentille des mamans, mais il y a aussi une sorcière chez ta mère. Tu pensais que ton père, c'était le plus gentil, le plus merveilleux, le plus solide, le plus fort, le plus intelligent, le plus savant des papas, mais chez ton père, il peut y avoir aussi une figure violente, agressive, dominatrice, meurtrière, pédophile. Voilà. Donc c'est la dimension pédagogique du conte. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire du mal des belles-mères, mais c'est de dire à l'enfant que dans la figure auquel il a, enfin, avec laquelle il s'est confronté et qu'il va construire à l'intérieur de lui-même, il y a cette figure vivante et positive de sa mère, et il y a cette figure sombre de sa mère. Que cette obscurité relève de la violence, de la dépression, de l'absence, de la blessure. Vous voyez, hein? C'est-à-dire, il y a des mères blessées partout, il y a des mères violentes, il y a des mères agressives, il y a des mères absentes. Voilà, il y a tout ça. Et pareil chez les pères, hein? Donc la belle-mère, dans le sens de la sorcière ou de la marâtre, c'est cette part sombre de la mère, pareil chez les hommes.
Eh bien, c'est sur ces paroles un peu, pas très encourageantes en tout cas, que nous allons conclure cette émission.
Si, encourageante, c'est la vie.
Encourageante, c'est la vie. Voilà, c'est la vie dans les contes et les contes, c'est la vie également. On se retrouve dans 15 jours pour poursuivre notre aventure aux côtés des six cygnes.
Scared. Take it back, take it back. To survive, so come on, baby, don't go away. Just let them save me for a rainy day. Take it back, take it back. Take that thing right out of here.
got this need, the need to stay alive. Not ashamed of my greed, I've got to survive. So come on, baby.